Et là, oui, on peut dire que c'est la mi-juin, 15 juin 2018. J'espère que vous allez bien en ce magnifique vendredi. C'est Hélène Denis qui vous accompagne et qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Ouais. Est-ce que vous êtes du genre à planter des fleurs dans votre environnement?
Non, mais je m'occupe des fleurs d'ici, en fait.
C'est quoi ça, des fleurs d'ici?
Ben, les fleurs, oui, les fleurs. Nous avons à la radio.
D'accord, je pensais que c'était le nom d'une boutique. C'est cute quand même,
non,
c'est charmant, les fleurs d'ici.
Oh,
mais
ben,
les fleurs de Canal M, de Vues
voilà,
et Voix.
Oui.
Et il y a une espèce de géranium absolument
oui.
spectaculaire. C'est grâce à vous, ça?
C'est pas grâce à moi, mais
vous vous en
voilà,
occupez.
Voilà.
Bon. Et est-ce que c'est la journée internationale de
oui.
quelque chose, des fleurs,
non.
des plantes, non?
Non. En Europe, ils ont la journée européenne du vent, donc de l'énergie
oh.
éolienne. Nous avons aussi la journée mondiale contre la faim et la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. 15 juin dans l'histoire, que s'est-il passé? En 2009, la direction du quotidien La Presse, tiens, annonce qu'elle met fin à son édition du dimanche. Le 15 juin 2001, l'équipementier Nortel annonce l'abolition de 10 000 autres postes, s'ajoutant aux 20 000 autres précédents. En 2001, deux géologues suisses découvrent une météorite provenant de la planète Mars pesant 223,3 grammes et faisant partie de 18 météorites venant de la planète rouge jamais découverte à ce jour sur la Terre. 15 juin de l'an 2000, la Cour suprême confirme la validité de la loi instituant le contrôle des armes à feu au Canada. En 1997, la plus longue prise d'otages en Amérique latine prend fin en Colombie par la libération de militaires capturés un an plus tôt. À Montréal, en 1995, la juge Micheline Corbeil-Laramé arrête le procès des frères Matix pour trafic de drogue, des policiers de la SQ ayant fabriqué des éléments de preuve. 15 juin 1988, 8 Soviétiques sont expulsés du Canada pour espionnage industriel. Un incendie à la luminerie Reynolds de Cap de la Madeleine en 1987. En France, en 1969, décidément avec mes chiffres aujourd'hui, Georges Pompidou est élu président. Levée de la première pelletée sur le sentier du pavillon du Canada en vue de l'Expo 67 en 1965. J'aurais dû dire ça autrement. 15 juin 1965, c'était la levée de la première pelletée. 1951 à Montréal, près du marché Atwater. Tristement, l'incendie de l'hospice Sainte-Cunégonde fait 45 morts.
L'hospice,
si tu dis oui.
Oui.
Je voilà. Des fois, je rajoute des S. Aujourd'hui,
hospice,
je rajoute des S.
Mélangé avec piste, ça
oui,
fait hospice.
Voilà.
Mais c'est pas un mot qui existe.
Non.
Je suis pas fine. Hein?
Je m'occupe de ça. Dans quelques années, vous allez voir dans le dictionnaire, il y aura hospice. 1944, un premier gouvernement socialiste est élu au Canada avec la coopérative Commonwealth Federation en Saskatchewan. 1922, la Cour internationale de justice se réunit pour la première fois à La Haye. 1846, les États-Unis et la Grande-Bretagne signent le traité qui fixe au 49e parallèle la frontière à l'ouest du Canada. 1785, premier accident aérien mortel au Pas-de-Calais, pardon, quand la montgolfière de Pilâtre de Rosiers et son équipier prend feu en vol. En 1752, Benjamin Franklin invente le paratonnerre et on remonte en 1520, 15 juin, le pape Léon X excommunie Martin Luther. Et pour ce qui est des naissances, François-Xavier Garneau, l'historien canadien-français qui est né en 1809 et c'était la naissance en 1943 du chanteur Johnny Hallyday, né Jean-Philippe Smet. Et pour ce qui est des décès, 15 juin, l'humoriste français d'origine belge, Raymond Deveau, nous quittait en 2006. Et la chanteuse Ella Fitzgerald en 1996, elle qui était née en 1919.
Un 25 avril comme moi.
Oh.
Merci Mathieu. À la une de la presse, plus croissance de l'emploi, Montréal au sommet. La métropole a dominé les plus grandes villes nord-américaines l'an dernier. Une performance aussi rare que réjouissante qui trouverait sa source dans le boom techno. Mais Montréal peut-il maintenir le rythme? La chronique d'Yves Boisvert intitulée « Feu tréflé » et aussi le projet de loi 400 adopté, c'est le sujet de la chronique d'Yves Boisvert, entre autres choses. Art, cinéma, Jurassic World, Fallen Kingdom. L'homme jurassique, un scientifique consultant de la célèbre franchise, sépare le vrai du faux. Pose chic, mode masculine, prêt pour l'été, du boulot à l'apéro, du pique-nique à la piscine. L'éditorial de François Cardinal, changement de structure de la presse pour assurer la pérennité de votre journal. C'est fait. La loi modifiant la loi concernant la succession de l'honorable Tréflé Berthiaume et de la compagnie de publication de la presse limitée est adoptée. Enfin, point de suspension. Quel chemin tortueux il a fallu suivre pour revoir la structure d'une entreprise qui a droit, venons-en à l'évidence, à un peu trop d'égards parlementaires. Le projet de loi 400 visait simplement à transformer un journal pour qu'il puisse mieux affronter les Facebook de ce monde, mais à lire et à entendre les détracteurs de la presse, on aurait cru que les élus avaient à se prononcer sur le sort d'une société d'État en difficulté, dont il fallait choisir jusqu'à la couleur des murs. Or, revenons à l'essentiel. La loi concernant la succession de l'honorable Tréflé Berthiaume, votée en 1967, qui faisait suite à des disputes familiales remontant 100 ans en arrière, visait en gros à s'assurer que la presse demeure une propriété québécoise. Et donc, lorsque Power Corporation a signifié son intention de se départir du journal, les députés ont eu à s'assurer que la presse demeurait une propriété québécoise, rien de plus. Dans un monde normal, cela n'aurait été qu'une formalité puisqu'il n'est absolument pas question de vendre la presse à des intérêts étrangers, mais plutôt de l'enraciner encore davantage au Québec, en faisant la propriété d'une fiducie à but non lucratif bien de chez nous. Mais le monde polarisé et hyper partisan dans lequel nous évoluons a transformé une particularité historique en un prétexte pour faire le procès du journal. Contrairement à ce que plusieurs d'entre eux ont fait ces dernières semaines, les parlementaires n'avaient pas à se prononcer sur la pertinence du nouveau modèle d'affaires d'une entreprise de presse. Ils n'avaient pas à juger son plan stratégique, son virage technologique ou ses principes éditoriaux. Et pourtant, plusieurs d'entre eux ont franchi allègrement cette ligne, pulvérisant au passage l'indépendance censée exister entre médias et politiques, imposant des conditions à leur appui qu'ils n'auraient jamais exigées d'une entreprise de presse en temps normal, proposant des amendements qui n'étaient qu'ingérence dans la gouvernance et salissant un quotidien des centaines de journalistes intègres pour des raisons bassement partisanes. Pourtant, dans ce dossier, la presse faisait front commun avec ses syndicats, avec les deux grandes centrales syndicales, la CSN et la FTQ, et avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Tous ont rappelé que l'abrogation demandée ne pouvait être un prétexte pour s'ingérer dans le fonctionnement et la gouvernance d'une salle de nouvelles. Comprenons-nous bien. Les députés avaient non seulement le droit, ils avaient la légitimité de poser les questions qui s'imposent. Et le devoir de la presse était de répondre à toutes les interrogations, ce qu'elle a fait tout au long du processus. De la présentation à l'adoption en passant par la commission parlementaire, il s'est écoulé plus de 2 semaines et environ 10 heures de rencontres et d'étapes parlementaires intensives. 10 heures pendant lesquelles la presse a donné des réponses à toutes les questions. En fait, il y a eu tellement de temps consacré à éplucher ce projet de loi d'à peine 2 articles que notre concurrent nous accusait hier d'avoir monopolisé le Parlement. C'est le comble. La presse s'est simplement pliée de bonne grâce aux procédures parlementaires à la demande des élus. Et cela a dû être bien reçu puisqu'après toutes ces heures passées à étudier le projet de loi 400, le gouvernement a obtenu hier le consentement de tous les partis pour le soumettre au vote. Oui, il a dû y avoir bâillon. C'est dommage. Mais ce n'est pas en raison des questions laissées en suspens. C'est simplement qu'une députée sur 125 voulait empêcher les députés de voter. Et ce, même si aucun intervenant en commission parlementaire ne s'était opposé à l'abrogation d'une disposition de la loi de 1967. Pas même le propriétaire de Québecor, ancien chef d'un parti qui s'est d'ailleurs surpassé dans l'ingérence, les coups bas et les allusions insidieuses. C'est donc au blocage d'une élue isolée qu'on doit la levée des procédures, laquelle a été suivie hier soir par un vote des parlementaires auquel il fallait bien se résoudre à un moment donné. Un vote qui a obtenu l'appui de trois partis, le PLQ, la CAQ et QS, qui ont eu le courage de défendre des principes plutôt que de profiter de la situation pour se faire du capital politique. La bonne nouvelle, c'est que la loi est maintenant adoptée et que la presse pourra aller de l'avant avec son changement de structure. Elle passera ainsi des mains de Power Corporation à celle d'une fiducie d'utilité sociale ayant un seul et unique but, assurer la pérennité d'une salle de rédaction intègre et professionnel. Alors voilà pour l'éditorial de François Cardinal d'aujourd'hui. La Fédération des inventeurs du Québec dans l'embarras. L'organisme est visé par une énième poursuite et des allégations de pratiques frauduleuses. Déjà visé par le dépôt d'une demande de recours collectif comptant 75 participants, l'enregistrement d'une cinquantaine de plaintes à l'Office de la protection du consommateur et une dizaine de poursuites d'entrepreneurs aux petites créances, la Fédération des inventeurs du Québec continue de susciter la grogne de ses clients. Se disant floué par l'incompétence manifeste et des pratiques frauduleuses de la Fédération des inventeurs du Québec, un inventeur de Rawdon vient d'intenter une poursuite totalisant 633 000 $ en dommages punitifs, pertes de profit et dommages-intérêts contre l'organisme et son unique administrateur, Christian Varin. Il faut qu'on sorte cet individu de la circulation. Si l'État n'est pas capable de le faire, on va s'en charger nous-mêmes, plaide l'avocat qui défend le plaignant dans cette histoire, Maître Pierre-Paul Bourdage. Son client, Robert Boudreau, reproche à M. Varin et sa fédération d'avoir bâclé sa demande de brevet pour protéger son invention, un équipement permettant aux enfants de fabriquer des igloos sécuritaires. Il lui reproche aussi, à travers de fausses représentations à caractère frauduleux, d'avoir omis de faire le suivi nécessaire pour s'assurer que le brevet demeurait valide au moment de la commercialisation. Le père condamné pour avoir interdit à sa fille de 8 ans de se lever de table pendant 13 heures parce qu'elle refusait de manger ses choux de Bruxelles enseigne toujours en technique d'éducation spécialisée au collégial a appris la presse. Le titulaire d'une maîtrise en psychoéducation âgé de 42 ans, que nous ne pouvons nommer pour protéger l'identité de sa fille, continue de former les futurs professionnels d'un important établissement francophone de la capitale fédérale. La presse a révélé hier matin la situation qualifiée d'aberrante et de troublante par la justice. La guerre des nerfs s'est poursuivie toute une nuit jusqu'à 8 heures le lendemain matin, la fillette passant plusieurs heures dans son urine, souffrant d'hypothermie et se faisant réveiller quand elle s'endormait sur sa chaise. Le collège effectuant des recherches et suivi présentement, nous ne commenterons pas davantage. Nous avons pris connaissance de cette situation ce matin, donc c'est la porte-parole de l'établissement où l'homme travaille. La procureure de la Couronne au dossier, maître Christine Lambert, a toutefois affirmé à la presse que l'endroit où il travaille a été avisé. Maintenant, ce qu'ils en ont fait, je ne le sais pas, a-t-elle ajouté. Dans quelques années, j'apporterai mon doctorat et je le mettrai dans les mains de maman. Hussein à son beau-frère Jihad Darwish avant de partir vers l'Europe en 2015. Le jeune homme fait partie des 71 victimes migrantes, 59 hommes, 8 femmes et 4 enfants, dont un bébé, qui ont été retrouvées mortes par suffocation dans un camion frigorifique en Autriche. La justice a condamné hier les trafiquants à des peines de prison ferme au terme d'un procès où M. Darwish avait témoigné.
Et oui, Hubert Lenoir, gagnant du prix Félix Leclerc, prix de la chanson, sera aussi présent sur la scène le 17, donc ce dimanche, puisqu'il a été invité par Yann Perrault dans le cadre du spectacle Tombé du ciel. Un grand salut au grand Jacques Higelin.
À la une de la presse, Formule E, poursuite contre Valérie Plante et Montréal. Franco, le miroir des tendances, un révélateur des goûts des Québécois en matière de musique francophone. Patrimoine à l'abandon, c'est une chronique de Jean-François Nadeau. Actualité Tunisie, les cafés illégaux du Ramadan. Zeitgeist, paru sens interdit, zigzagué entre Dali et l'origine du monde. C'est José Blanchette qui est à Paris. Mariage de passion avec les abeilles, incursion dans le monde de l'apiculture. Alors, on y va avec poursuite contre Valérie Plante et Montréal. La mairesse Valérie Plante et la Ville de Montréal, qui ont mis fin aux courses de voitures électriques, sont visées par une poursuite de 33 millions déposée jeudi par Formule E Opération, FEO, et le syndic de faillite de l'organisme Montréal C'est électrique, MCE. La décision de la mairesse Plante d'annuler la Formule E reposait sur une croyance erronée que la Ville n'avait aucune obligation envers MCE et FEO, et qu'elle pouvait donc complètement ignorer les conséquences de ces gestes, peut-on lire dans la requête déposée au Palais de justice de Montréal par le syndic PricewaterhouseCoopers et FEO. Madame Plante, qui a délogé l'ancien maire de Nicodère à la suite des élections municipales de novembre 2017, a suspendu la tenue de l'événement un mois après son arrivée au pouvoir. Qualifiant l'événement de fiasco financier, Mme Plante avait avoué à l'époque ignorer combien coûteraient les pénalités aux contribuables montréalais. En annulant abruptement la Formule E, comme elles l'ont fait, la mairesse Plante et la Ville ont agi de manière impulsive, arbitraire, injurieuse et préjudiciable, déplorent les deux organisations. Elle reproche à Mme Plante et à la Ville de ne pas avoir tenu compte des conséquences de la rupture de contrat que représente l'interruption de l'événement. La Ville refuse d'assumer les conséquences financières de la rupture de contrat. FEO et MCE n'ont donc d'autre choix que d'engager une procédure judiciaire, peut-on lire dans le document de cour. Les sommes réclamées correspondent au montant que doit MCE à ses créanciers, dont 21 millions à FEO. Le cabinet de la mairesse Plante dit assumer la décision d'avoir mis fin à l'événement. La reconquête conservatrice du Québec débutera-t-elle lundi à Chicoutimi? Le chef Andrew Scheer a mis le paquet dans l'espoir de ravir la circonscription de Chicoutimi-le-Fjord et de prouver aux électeurs de la belle province, en vue de l'élection générale de 2019, que la lutte politique fédérale en est désormais une qui se livre à deux. Les électeurs de Chicoutimi-le-Fjord sont conviés aux urnes parce que leur député, le libéral Denis Lemieux, a démissionné à l'automne pour des raisons personnelles jamais explicitées. Cette région a la particularité d'avoir tour à tour été représentée par le Parti progressiste conservateur, le Bloc québécois, le NPD et le Parti libéral. Aussi, tout le monde lorgne-t-il cette circonscription baromètre? Hier, les quatre chefs de parti s'y sont rendus pour un dernier sprint et Élisabeth May du Parti vert suivra aujourd'hui. S'il faut en croire un coup de sonde mené par la firme Segma pour le compte de Radio-Canada Le Quotidien auprès de 402 personnes, marge d'erreur de plus ou moins 4,9%, la victoire est à portée de main pour le Parti conservateur qui recueille 36,3% des intentions de vote. Le Parti libéral arrive second avec 20%, suivi par le Bloc québécois à 8,7% et le NPD à 6,2%. Le nombre de saisies de téléphones cellulaires dans les établissements carcéraux qui relèvent du Québec ne diminue pas, malgré l'intention répétée du ministère de la Sécurité publique d'attaquer ce problème de front. Des données obtenues en vertu de la loi d'accès à l'information révèlent que 491 appareils ont été confisqués du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, soit exactement la même quantité que l'année précédente. Ce nombre record a bondi depuis 2010-2011, année où 113 saisies de téléphones ont été effectuées. Ces chiffres sont positifs, affirme la directrice de la sécurité à la Direction générale des services correctionnels du ministère, Chantal Robert. Le ministère étudie actuellement différentes technologies qui pourraient être mises en place afin de contrer le fléau des téléphones cellulaires en prison. De concert avec le gouvernement fédéral, indique Mme Robert. C'est un problème mondial, souligne-t-elle. L'utilisation de téléphones cellulaires par des détenus est hautement problématique. Cet outil leur permet de diriger leurs opérations criminelles à distance, de même que de communiquer avec des opérateurs de drones, notamment. Ça représente des risques importants pour la sécurité des établissements, ajoute le président national du syndicat des agents de la paix en milieu correctionnel, Mathieu Lavoie. Selon lui, la lenteur à mettre en place des mesures s'explique par les investissements requis. Le vrai enjeu, ce sont les moyens financiers. L'ex-recteur de l'UQAM, Claude Corbeau, présidera le nouveau comité de surveillance de l'unité permanente anticorruption annoncée Québec jeudi. L'avocate Anne-Marie Boisvert et l'administratrice Diane de Rome compléteront le comité. M. Corbeau est nommé pour un mandat de 7 ans, tandis que Mesdames Boisvert et de Rome seront en poste pour 5 ans. Le gouvernement libéral a cédé aux pressions des oppositions en décembre 2017 et accepté de créer un comité de surveillance de l'UPAC dans la foulée de révélations embarrassantes pour l'unité policière devenue un corps indépendant lors de l'adoption du projet de loi 107 en février 2018. Donald Trump a été accusé jeudi par l'État de New York d'avoir utilisé l'argent de sa fondation à des fins personnelles, une attaque qui touche le cœur des affaires du président américain, immédiatement qualifiée de ridicule par ce dernier. La plainte au civil déposée jeudi par la procureure de l'État de New York vient ajouter aux nombreux ennuis juridiques du président déjà assignés en justice par 2 femmes avec lesquelles il aurait eu des liaisons et aux prises avec une vaste enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur d'éventuels liens entre son équipe de campagne et la Russie. Les ménages canadiens ont réduit leur endettement au premier trimestre, a annoncé jeudi Statistique Canada. La dette contractée sur le marché du crédit par rapport aux revenus disponibles des ménages a diminué, passant de 169,7% au quatrième trimestre à 168% au premier trimestre, le revenu disponible ayant augmenté à un taux plus rapide que la dette.
Why?
Simon Lagagnère qui sera sur la scène Zone Course Light ce soir à 17h.
À la une du Journal de Montréal, corruption et collusion poursuivis par Montréal et Laval, bureau d'enquête. La rivière des Cochonneries. La mairesse de Pointe-aux-Trembles veut promouvoir les activités nautiques sur la rivière des Prairies alors que les berges sont jonchées de détritus. Montréal réclame des millions à d'ex-dirigeants, la ville dit avoir été victime d'un système frauduleux de trucage des soumissions. Montréal sort l'artillerie lourde pour récupérer l'argent qu'elle dit pouvoir avoir perdu à cause de la collusion et de la corruption. Elle poursuit 6 personnes, dont l'ex-président du comité exécutif Franck Zampino et un ancien maire de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, pour un total de 4,5 millions, a appris notre bureau d'enquête. Enveloppe d'argent comptant, contrat truqué, financement politique illégal, la commission Charbonneau a amplement exposé comment les contribuables montréalais se sont fait avoir en payant le gros prix pour des travaux publics. Jusqu'ici, la ville était restée discrète dans ses démarches pour récupérer son dû. Plus maintenant. Selon nos informations, la décision de poursuivre a été entérinée par le comité exécutif cette semaine et Montréal entend déposer sous peu sa requête en cour supérieure. Donc, montant réclamé par la ville, Franck Zampino, ex-maire de Saint-Léonard et ex-président du comité exécutif, 4 millions. Bernard Trépanier, ex-collecteur de fonds du Parti Union Montréal, 4,5 millions. Robert Marcil, ex-directeur des travaux publics, 1,1 million. Cosmo Mathieu Chia, ex-maire de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, 90 000 $Luc Benoît, ex-PDG de la firme de génie TechSult, 4,5 millions. Pierre Asselin, ex-VP de TechSult, 4,5 millions. Et Ecom, firme de génie, 4,5 millions. Climat de peur à la suite du meurtre d'une jeune femme. Des résidents de Coudjouac ont amélioré la sécurité de leur maison depuis le crime. Tout le monde est choqué, lance d'emblée le maire Tounou Napartouk. Ce n'est pas facile d'apprendre cela, surtout que c'est quelqu'un qui est venu vivre à Coudjouac pour travailler. L'annonce de la mort de Chloé Labrie s'est propagée plus vite que ne roulent les VTT dans les rues du petit village nordique de 2700 âmes, a constaté le journal. La femme de 28 ans, originaire de Victoriaville dans le centre du Québec, aurait été abattue d'une balle à la tête dans sa modeste demeure lundi soir. Elle était employée du laboratoire du centre de santé Tulatavik de Lungava depuis environ 4 ans et était en couple avec un mécanicien d'air inuit depuis 2 ans et demi. Un natif de la place, Randy Koneek, a été accusé du meurtre prémédité de la jeune travailleuse de la santé hier à Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Le jeune homme de 20 ans, accusé du meurtre prémédité, était en liberté surveillée au terme de 18 mois de détention et lui était interdit de posséder une arme à feu. Randy Koenig a pratiquement toujours été sous les verrous depuis qu'il a atteint l'âge adulte, cumulant de nombreux délits. Par ailleurs, le journal a appris que Koenig aurait tenté d'agresser sexuellement Chloé Labrie, ce qui expliquerait l'accusation de meurtre au premier degré. pataugés parmi les déchets. Une mairesse d'arrondissement veut promouvoir les activités nautiques sur la rivière des Prairies alors que les berges sont jonchées de détritus, que la qualité de l'eau est douteuse. C'est écœurant comme ça se peut pas. Un vrai dépotoir, dénonce Paul Maillet en montrant au journal un couple de bernaches guider ses oisillons entre un cône orange et un amoncellement de plastique. Résident de la pointe est de l'île de Montréal, M. Maillet consacre sa retraite à la conservation des espaces verts du secteur. Il a notamment présidé l'Association des Amis du Parc de la Pointe aux Prairies. C'est en admirant les oiseaux migrateurs nichés au bord de la rivière des Prairies qu'il a découvert la malpropreté des berges, le long du boulevard Gouin-Est, à la hauteur du club de golf de l'île de Montréal. La mairesse de l'arrondissement rivière des Prairies Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, veut pourtant promouvoir le kayak, le paddleboard et d'autres activités nautiques dans ce secteur. Le projet laisse le guide d'aventure Christian Desautels sceptique. Quand on regarde les côtes de pollution, ce n'est pas une zone où j'envisagerais des activités de contact avec l'eau. C'est la zone la plus polluée de la rivière, dit-il. La mairesse Rouleau assure que les berges seront nettoyées très, très rapidement. La coalition est gênée par les affaires de Le Bouillonnec. Les libéraux et les péquistes ont tenté de faire tomber le président de la CAQ. À la veille de son bilan de fin de session, le parti de François Legault, qui mène dans les sondages, s'est retrouvé dans l'embarras en raison de l'implication du président de la CAQ, Stéphane Le Bouillonnec, dans une entreprise de prêt à haut taux d'intérêt. « Je crois que M. Legault devrait lui demander de partir de la présidence de la CAQ », a déclaré la ministre responsable de la protection des consommateurs et de l'habitation, Lise Thériault, après que notre bureau d'enquête a fait la lumière sur les affaires que brasse M. Le Bouillonnec. Le président de la CAQ, qui souhaite regagner son siège dans la Prairie, est aussi actionnaire et président depuis mars 2017 du conseil d'administration d'une entreprise qui gère le site iCash, spécialisé dans l'offre de prêts privés, à 90 % d'intérêt et plus aux Canadiens hors Québec. Partout au Canada, sauf au Québec, puisque cette pratique est illégale depuis l'adoption, avec l'appui de la CAQ, d'une nouvelle législation encadrant les prêteurs sur salaire. Un pêcheur de la rive sud a eu la mauvaise surprise de trouver 50 bernaches du Canada mortes dans le fleuve Saint-Laurent au large de Contrecoeur hier matin. « J'ai toujours été sur l'eau et je n'ai jamais vu ça », a confié Nicolas Geoffrion au journal. M. Geoffrion a immédiatement contacté le ministère de la Fonde qui a mandaté un agent pour constater l'hécatombe. Il a recensé les oiseaux et recueilli 3 spécimens afin de les faire analyser pour déterminer la cause du décès. D'après le pêcheur qui a pu observer les oiseaux vivants la veille, la foudre tombée dans le secteur durant l'orage de mercredi soir pourrait être en cause. Québec a indiqué avoir confié l'enquête au Service canadien de la Fonde qui a la responsabilité de sauvegarder des oiseaux migrateurs. La police de Montréal tente de retrouver une dame qui aurait peut-être aperçu le jeune Ariel Jeffrey Kouakou l'avant-midi de la journée de la disparition du garçon le 12 mars dernier. « Nous avons récemment reçu une information comme quoi cette femme qui fumait une cigarette sur le bord de l'eau au parc des Bateliers entre 11h et 11h30 aurait pu voir Ariel cette journée-là. Si cette personne se reconnaît, on aimerait qu'elle communique avec la police », a indiqué l'inspecteur Yann Lafrenière, chef de la division des communications au service de police de la ville de Montréal. Du blé génétiquement modifié interdit au pays a été mystérieusement découvert sur une route de campagne en Alberta, laissant les autorités dans le néant. C'est une découverte inhabituelle et isolée. C'est un produit qui ne devrait pas exister, mais qui a été identifié et détruit, a assuré David Bailey, directeur division de la production des végétaux à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les autorités assurent qu'aucune graine ou plante de ce type ne se trouve sur le marché canadien. Il n'y a donc aucun danger pour la santé des Canadiens. Au Canada, seules les cultures du canola, du maïs et du soya génétiquement modifiés sont autorisées. Et finalement, face aux risques terroristes, la Tour Eiffel est désormais protégée par une barrière de verre et des grillages, cible potentielle dans un pays frappé par des attentats djihadistes. Le parvis de la Tour Eiffel avait été fermé à la libre circulation en juin 2016. Mais les barrières de chantier installées pour protéger le site étaient peu esthétiques, selon la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui a lancé en 2017 des travaux de 35 millions d'euros, 53 millions en canadien, pour rendre la sécurisation plus belle. Les travaux sont presque terminés.
Le temps, petit Simon, où tu m'arrivais à la taille, ça me semble encore tout à l'heure, mais déjà tu m'arrives au cœur. Pour toi commence la bataille. Le temps, petit Simon, que je te fasse un peu l'école, me semble venir aujourd'hui, redonne-moi de cet alcool. Que je te parle de la vie, tu verras, les amis ne meurent pas, les enfants ne vous quittent pas. Les femmes ne s'en vont pas. Tu verras, on rit bien sur la terre. Marlborough ne s'en va plus en guerre. Il a fait la dernière. Tu verras. Et puis, petit Simon, chez nous, personne ne vieillit. Nous sommes là et ne crois pas que nous partirons d'aujourd'hui pour habiter dans autrefois. L'amour, c'est tous les jours qu'on le rencontre dans la vie. Et rien ne passe et rien ne casse, redonne-moi de l'eau de vie. À peine, voilà, merci. Tu verras, les amis ne meurent pas, les enfants ne vous quittent pas, les femmes ne s'en vont pas. Tu verras, on rit bien sur la terre, Marlborough ne s'en va plus en guerre, il a fait la dernière. Tu verras, les femmes infidèles, on les voit dans les aquarelles. Elles vous querellent sous les ombrelles, dans la vie ce ne sont pas les mêmes. Elles nous aiment, elles nous aiment. Un homme, petit Simon, ce n'est jamais comme un navire. On abandonne quand il chavire et tout le monde quitte le bord. Les femmes et les enfants d'abord. Tu verras, les maisons ne meurent pas, les idées ne vous quittent pas, le cœur ne s'en va pas. Tu verras, tu vas suivre en beauté les chemins de la liberté. Tu vivras, tu verras, comme moi. Le temps, petit Simon, où tu m'arrivais à la taille, ça me semble encore tout à l'heure, mais déjà tu m'arrives au cœur. Pour toi commence la bataille. Alors petit garçon, moi qui t'aimais, toi qui m'aimais, Souviens-toi que ton père avait une sainte horreur du mensonge. Une sainte horreur du mensonge.
Et oui, Serge Reggiani, les mensonges d'un père à son fils.
Dans Le Soleil, Marc Allard signe un article intitulé « Sylvain Marcel s'ouvre sur son passé de toxicomane ». Sylvain Marcel roulait entre Québec et Montréal lorsque son agent lui a parlé d'un possible contrat de porte-parole. « C'est-tu Ford? C'est-tu PFK? » s'est-il demandé. « Non, c'était pour le rucher. »« Dans ma tête, c'était du miel », raconte le comédien, vedette entre autres des séries « Mensonges » et « 19-2 ». Mais ce n'était ni pour du miel, ni pour des voitures, ni pour du poulet frit. C'était pour le centre de traitement des dépendances, le Rucher, à Saint-Augustin-de-Desmaures, l'organisme communautaire qui offre un programme thérapeutique avec hébergement d'une durée minimale de 6 mois, se préparait à lancer une campagne de financement. Sylvain Marcel, ex-alcoolique et ex-toxicomane, porte-parole pour une maison de thérapie. « Sur le coup, ça m'a secoué, dit-il. » J'ai senti le poids de la responsabilité. Raconter son alcoolisme et sa toxicomanie en public. Associer son visage à un centre de traitement des dépendances. Il ne savait pas s'il était prêt à ça. À un moment donné, on se dit, faut faire attention, il ne faut pas trop en parler. Ça pourrait nuire à mon travail. Mais pourquoi ça nuirait à mon travail? Je veux dire, ma vie va bien, pourquoi je ne pourrais pas justement aider d'autres personnes? À un moment donné, on se dit, il faut faire attention. Alors, il y a 2 semaines, il s'est rendu au Rucher pour partager son expérience de la dépendance avec les résidents et y rencontrer les intervenants. Il en est ressorti avec la conviction qu'il pouvait parler de la dépendance au nom du centre Le Rucher et avec le désir de briser un certain stéréotype de la dépendance, celui qui associe la dépendance à la pauvreté, à la déchéance. C'est une maladie qui n'a pas de classe sociale, dit Sylvain Marcel. Le comédien est maintenant abstinent depuis 9 ans. Mais durant plusieurs années, alors qu'il brillait de plus en plus à la télé, au cinéma et avec ses populaires pubs de Family Prix, le fameux AA, c'était lui, il était dépendant à l'alcool et à des drogues dures qu'il ne préfère pas préciser. Je faisais beaucoup de tort autour de moi, mais j'étais incapable de me dire « OK, là, c'est la dernière fois », dit-il. Ça m'a nui dans mon travail, j'étais en survie tous les jours. Parfois, je me levais à 5 heures du matin et je me disais « je passerai pas à travers, je passerai pas à travers ». La consommation de drogue et d'alcool l'a conduit 6 fois à l'hôpital, 2 fois pour le cœur, 3 fois pour des amygdalites aiguës. La gorge était en train de me fermer, dit-il. Et cela sans compter les idées suicidaires. À un moment donné, tu te dis « je suis un lâche, je suis pas capable, j'ai pas de volonté », mais ça n'a rien à voir avec la volonté. « T'es incapable d'arrêter », dit-il. Il a appelé son ancienne agente qui connaissait ses problèmes de dépendance. C'était un jeudi. Elle lui proposait d'entrer à la maison Jean Lapointe le dimanche. « Non, c'est là, sinon je vais repartir, je vais mourir », lui a-t-il dit. Il est entré dans un autre centre de thérapie le jour même. Il y est resté 28 jours, n'a pas consommé durant 6 mois. Puis, il a fait une rechute pour voir s'il était encore capable. 15 heures sur la dérape à côte. 15 heures sur la dérape à côté. C'est la dernière fois de ma vie que j'ai consommé, raconte-t-il. Aujourd'hui, dans les 5 à 7, les parties, Sylvain boit son verre de Coca-Cola. Il lève la main pour être le conducteur désigné. Je me sens utile, dit-il. Sylvain Marcel espère qu'il le sera encore plus comme porte-parole du centre de dépendance Le Rucher. Il ne vend toujours pas de miel, mais ça lui est égal. C'est important de redonner. En tout cas, moi, ça m'aide. Dans la tribune, Tommy Brochu, le bureau de la fonte de l'Estrie a reçu 12 signalements pour l'ours qui rôde dans le secteur de Saint-Élie depuis le 2 juin. La bête a récemment été aperçue par un enfant de 5 ans qui jouait seul dans sa cour arrière. Quand la mère a appris que c'était fort probablement l'ours, elle ne se sentait pas bien, affirme Christelle Lefebvre, une citoyenne du secteur. Elle ne savait pas qu'un ours rôdait dans le quartier. Quand son enfant lui a dit qu'il avait vu une grosse bête noire, elle a pensé que c'était un chien. Le lieutenant François Laprise du bureau de la fonte de Sherbrooke ne pense pas que l'enfant était en grand danger. Je ne sais pas si l'ours peut considérer un enfant comme de la nourriture. N'importe quel animal peut devenir agressif lorsqu'il se sent pris. De dire qu'il pourrait prendre le jeune comme repas, je dirais que non, indique-t-il. Selon Mme Lefebvre, des gens nourrissent la bête. Des gens savent et continuent de mettre des pommes sur leur terrain. On a conseillé à un autre de ranger ses mangeoires d'oiseaux et il n'a pas voulu. Si l'ours trouve de la nourriture ici, il va se sentir bien et va rester ici, déplore-t-elle. M. Laprise assure que ce comportement est à éviter. Certains disent apprécier la présence de l'ours, disant que c'est un bel animal. L'opinion est partagée dans ce dossier. Il ne faut pas nourrir l'ours, éviter toute forme de repas. On dit aux gens de garder leur mangeoire à l'intérieur pour quelques semaines, conseille l'expert. Pour M. Laprise, l'animal est encore considéré comme un rôdeur. Nous avons une échelle à suivre. Tant qu'il n'est pas menaçant ou ne cause pas de dommages, il a le statut de rôdeur. Il est dans un milieu forestier. On a fait plusieurs patrouilles dans le secteur, on a remis des dépliants expliquant comment cohabiter avec l'ours, les règles de sécurité, explique le lieutenant. Les citoyens de Saint-Élie n'ont pas trop peur. Je ne dirais pas que c'est un sentiment de terreur, on est plus prudent. On regarde autour de nous quand on entend des bruits, mais je ne dirais pas que c'est une terreur. La police et les agents de la fonde sont très rassurants, résume Mme Lefebvre. Dans le Nouvelliste des millionnaires surpris et heureux lorsqu'il a su qu'il venait de remporter un lot de 6 millions au tirage du Loto Max de vendredi dernier, André Goupil a choisi de réaliser l'un de ses plus grands rêves. L'homme de Drummondville, en compagnie de sa femme Denise Bolduc, est allé s'acheter une paire de bas à la Justin Trudeau. « Il n'y a pas de petits rêves », s'écrit le nouveau millionnaire en éclatant de rire. Ils étaient 15 nouveaux millionnaires jeudi après-midi à venir réclamer le gros lot de 60 millions de dollars remporté au Loto Max, l'un des lots les plus importants de l'histoire de l'Auto-Québec. Réuni avec parents et amis à Drummondville, le groupe formé en formule groupe dans une pharmacie Jean Coutu du boulevard Saint-Joseph se rencontrait en réalité pour la première fois, eux qui ignoraient jusque-là avec qui ils venaient de partager ce coup de chance du destin. Le lot partagé en 10 parts a été réclamé par des gens seuls, des couples et même une famille de 4 personnes qui s'étaient tous déplacés pour célébrer la nouvelle et rencontrer les médias. Un seul gagnant qui ne s'était pas manifesté encore a donné signe de vie à l'Auto-Québec jeudi midi. Toutefois, en raison des vérifications qui restaient à faire pour s'assurer qu'il était bel et bien détenteur du dernier billet gagnant, ce nouveau millionnaire n'a pu prendre part au point de presse organisé par la Société d'État. Mais si André Goupil semble se contenter que d'une paire de bas à la Justin Trudeau, la plupart des gagnants rencontrés jeudi entendent demeurer prudents et surtout garder les deux pieds sur terre avec ce montant d'argent qui vient d'arriver dans leur compte en banque. Des voyages, des cadeaux aux proches et du bon temps en famille semblent les projets les plus populaires pour ces nouveaux gagnants. Seule France Bergeron-Savoie semble déterminée à réaliser un projet très précis. S'acheter un gros tracteur. J'imagine que pour la fête des pères, il y a des pères qui seront certainement gâtés ou qui vont se gâter. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. Nous reste une demi-heure à passer ensemble, à venir les sujets libres et les actualités culturelles. Restez avec nous. On aura aussi une nouvelle chanson de Pierre Lapointe. Il vient de sortir un nouveau vidéoclip. Ça s'appelle Alphabet.
toujours faire rimer amour avec toujours. B, les initiales bébé. C, pour toi, aux blanches cocaïnes. D, souvenir du dada Zurich. L'ectoplasme qui sort de ta bouche. F, la femme qui se réveille en toi. G, la reine gastronomique des sens. H, les homos hurlent à la lune. I, l'intelligence de ne pas choisir. J, le jour qui repousse la nuit. K, les infinis multiples du kaléidoscope. L, les larmes qui mènent vers le déni. M, Morrison dans sa baignoire aux 17 rue Beautreillis. N, toujours chérir la naïveté. O, la renaissance d'Autodix. P, les fashion pirates de Vivienne Westwood. Q, toujours des questions sans réponse. Le rythme rapide de Steve Reich. S, Salvador et Amanda. T, la tristesse moteur de tes joies. U, l'uranium 235 de Tchernobyl. Voiture froissée de David Cronenberg. W, Walter Van der Endonk est grand. X, la génération prémâchée. Y, deux amoureux sous le ciel de Yellowknife. Z, l'humain habite dans un zoo. Chacune des lettres de l'alphabet nous empêche de rester muets. Comme une mélodie divine, elles évoquent en nous la doctrine de nos fragiles existences, trop souvent vidées de leur sens.
Eh bien, c'était Pierre Lapointe et sa nouveauté Alphabet. Sachez qu'il sera au théâtre Maisonneuve ce soir à 20h.
La portion culturelle est justement, parlant de Pierre Lapointe, il fait partie de la prochaine nouvelle. De cette nouvelle, le prix de musique Polaris a dévoilé jeudi sa toujours très diversifiée présélection qui compte cette année 11 artistes installés au Québec, dont Arcade Fire, Hubert Lenoir, Loud et Milk and Bone. Parmi les 40 artistes dont le récent travail a été souligné qui courent la chance de gagner une bourse de 50 000 $ on note aussi la présence des Bar Brothers, de Philippe Braque, du pianiste Jean-Michel Blais, de Lydia Kepinski, de Pierre Lapointe, de Mélissa Laveau et de Pierre Quenders. Au total, la liste québécoise compte donc 5 disques entièrement francophones, un tout en créole, celui de Laveau, et un en partie dans la langue de Molière, celui de Quenders. Depuis 2006, le Polaris récompense le meilleur disque canadien sans égard aux ventes ou au style musical. Chacun des membres du jury indépendant, formé de 203 journalistes de musique, de blogueurs et d'animateurs, issus d'un peu partout au pays, choisit 5 albums et les 40 obtenant le meilleur pointage se retrouvent dans cette liste de présélection. Cette année, un total de 225 albums auront retenu l'attention d'un des membres du jury. Le prix de musique Polaris annoncera la liste des 10 albums finalistes le 17 juillet. alors que le gagnant sera dévoilé lors d'un gala le lundi 17 septembre à Toronto. Et Hubert Lenoir est Fouet, primé au Franco, c'est la jeune sensation musicale de Beauport, Hubert Lenoir, dont on écoutait une chanson tantôt, qui obtient le prix Félix Leclerc de la chanson Volet québécois cette année. Côté français, le chanteur Fouet remporte le titre. Les deux prix ont été remis hier après-midi dans le cadre des 30e Franco de Montréal. Le prix Félix Leclerc de la chanson vise à stimuler la création chez les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes en leur permettant de se faire connaître outre-Atlantique. Hubert Lenoir participera donc au 35e Francofolie de La Rochelle à l'été 2019 et le français Fouet montera sur la scène des Franco de Montréal en juin 2019. Hubert Lenoir succède à Claude Pelgag, Safia Nolin et Salomé Leclerc. Rappelons que Claude Pelgag s'envolera pour les Francofolies de La Rochelle le 15 juillet. La chronique d'Hugo Dumas, Fugueuse et District 31, partage la tête. Pas de chicane dans la cabane, les deux phénomènes de la dernière saison télévisuelle, District 31 et Fugueuse, ont chacun récolté 12 sélections en prévision du prochain gala des Gémeaux. Comme quoi la série policière séduit autant les fans que les gens de l'industrie. Contrairement au gala Iris, les Gémeaux braquent les projecteurs sur des productions qui ont été vues par des centaines de milliers de téléspectateurs. Pas de scandale pointu contre grand public à l'horizon. Le Bye Bye 2017 a obtenu 11 citations, suivies de Lâcher prise 10, Les pays d'en haut 10, Blue Moon 9 et Faits divers 9. Alors, le gala des prix Gémeaux, c'est plus tard. Ce sera animé par Jean-Philippe Vautier et il tiendra seul les guides de la soirée des Gémeaux à Radio-Canada le dimanche 16 septembre à 20h. La critique du film « Quand l'amour se creuse un trou » d'Arabal avec Robert Naylor, France Castel, Julie Le Breton et Patrice Robitaille. Le titre de la critique « J'aime ta grand-mère » Chantal Guy dans la presse. Si on accepte d'emblée l'idée qu'un garçon de 17 ans puisse tomber amoureux d'une femme de 73 ans, il y a quelque chose qui se tient dans « Quand l'amour se creuse un trou » premier long-métrage d'Arabal. Bien sûr, le jeune réalisateur fait ici un clin d'œil au film « Harold et Maude » de Hal Ashby, dont la sombre fantaisie excusait l'histoire d'amour incongrue entre un garçon et une vieille dame. Mais dans le film d'Arabal, qui oscille entre le réalisme et la fantaisie, ce coup de foudre est amené brutalement et est difficile à croire quand bien même le jeune Miron, Robert Naylor, est présenté comme un esprit libre, poète dans l'âme, rebelle en devenir, avec en bouche des dialogues qui contiennent malheureusement beaucoup de clichés. Peut-être qu'au fond, Miron a trouvé là une façon originale de faire suer papa et maman. Il est tout de même amusant de voir opposer le couple de ses parents, Julie Le Breton et Patrice Robitaille, décidément un duo populaire des productions québécoises, qui bat de l'aile au couple improbable et passionné de Florence, France Castel et Miron. D'une certaine façon, ce qui choque les parents au-delà de la grande différence d'âge entre leur fils et la voisine, c'est précisément la passion qui anime ces deux-là. Tandis qu'eux s'enfoncent dans la platitude. Saluons l'audace de France Castel de se prêter au jeu de la femme éternelle sans âge qui a conservé son feu intérieur et son érotisme, ce qui est rarement montré au cinéma. « Quand l'amour se creuse un trou », le titre est un hommage à The Shawshank Redemption et un premier film maladroit, au dialogue un peu bancal, mais porté par l'enthousiasme et d'excellents acteurs et actrices, dont le désir de provoquer touche parfois la cible sans pour autant qu'on tombe dans le scandale. Le site spécialisé de Rap a annoncé hier que la chaîne CNN terminerait la diffusion de la 11e saison de la série Anthony Bourdain « Parts Unknown ». La question de poursuivre cette diffusion ou non était dans l'air depuis que le chef et populaire animateur s'était donné la mort, le 8 juin dernier, dans sa chambre d'hôtel près de Strasbourg. Les deux derniers épisodes de la saison seront diffusés dimanche et le 24 juin à 21h. À noter que l'épisode du 17 juin sera précédé à 20h d'une émission hommage sur CNN. Mercredi, le webdiffuseur Netflix a aussi annoncé qu'à la demande générale, il continuerait de diffuser la série d'Anthony Bourdain au-delà du 16 juin, date à laquelle on avait prévu y mettre fin. Suggestion sortie jusqu'à dimanche à l'esplanade du Centenaire au bar de Courcelles et à l'annexe Saint-Ambroise, le Festival Folk propose des spectacles de musique, de la bouffe, des bières locales et plus encore. On pourra entendre Catherine Leduc, ex-tricot machine, AH1, Plants et Animals, Mandolin, Orange, Les Chiens de Ruelle et plusieurs autres artistes du folk. Danse Cajun et Danse Carré sont également au programme. Tarifs, contributions volontaires, on suggère un laissez-passer de 50 $ pour la journée. Zone famille, ouverte et vendredi de 17h à 19h, samedi et dimanche de midi à 19h pour tous les détails. festivalfolkmontréal.com. Et pour terminer, l'historien Robert Lahaise, spécialiste de l'histoire de la Nouvelle-France, est mort. Docteur en histoire de l'Université Laval, Robert Lahaise était aussi docteur en littérature de l'Université de Montréal, sa thèse étant consacrée à son père, le poète Guy Delahaye, qui était le psychiatre de Néligan. Né en 1935, Robert Lahaise avait pris sa retraite du département d'histoire de l'UQAM en 1996. Il est mort le 9 juin dernier après avoir souffert de la maladie d'Alzheimer.
Au Nouveau-Brunswick, il y avait un porc-épic qui a jasé avec un cheval qui venait d'entendre Montréal. Il nous dit qu'est-ce que fait dans l'Est, il semble qu'il n'y a pas grand monde à messe. Pointe ta patente à gosse, on s'en va en Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, il y avait un rhinocéros qui jasait avec un lézard qui venait. L'île du Prince-Édouard nous dit qu'est-ce fait dans l'Est, il n'y a pas grand monde à messe. Pointe ton pack-sac, on s'en va à Tadoussac. À Tadoussac, il y avait plein de castons tabarnak qui saoulait avec une chauve-souris. Black and Paul, what the queen nous dit qu'est-ce fait dans l'Est, il n'y a pas grand monde à messe. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde à la messe, mais on est bien, on reste. Ah, vous restez bien, je reste ici toute la soirée. Attends que je raconte à André tout le beau monde que j'ai croisé. Un cheval de Montréal, il reste cross la Nouvelle-Écosse. Un porc-épic du Nouveau-Brunswick, chauve-souris du bout d'un couet. J'ai croisé un zard qui venait de l'île du Prince-Édouard. Puis une famille de castors était sous mon fait de sur le fond. On est resté accroché à l'auberge au moins 3 semaines d'affilée. La Madeleine, il y avait une baleine qui se baignait avec un piquant qui venait de l'île d'Orléans. Il nous dit qu'est-ce fait dans l'Est, il n'y a pas grand monde à messe.
pogne ton sac à dos, on s'en va à Bécomo. À Bécomo, il y avait un Chris gros corbeau qui se battait avec une limace qui venait quelque part de Saint-Ignace. Qu'est-ce que tu fais dans l'Est, ça me l'a pas dans mon averse. Pogne tes affaires, on s'en va à Saint-Hilaire. Ben, ça va, non! On est redescendu en criant tu n'as pas un peu. On est retourné dans l'Est, même s'il n'y avait pas grand on la messe avec un gars en Cadillac. Il pousse à jusqu'à Tadoussac. Il nous dit ah, vous restez, ben je reste ici toute la soirée. Attends que je raconte à André tout le beau monde que j'ai croisé. Baleine, vie de la Madeleine, et du camp de l'île d'Orléans. Un gros corbeau de Big Mo, une limace, Saint-Ignace. On est allé à Saint-Hilaire, il y avait Christophe. J'ai tourné à Tadoussac avec un cowboy en Cadillac. On est resté accroché à l'auberge au moins trois semaines. Non, non, resté accroché à l'auberge au moins six ans d'affilée.
En parlant des chiens de ruelle, c'était leur chanson Road Trip. C'est tout? Ben oui, c'est tout.
Mathieu, vous allez faire un road trip en fin de semaine?
Road trip. Ben, en fait, je vais descendre à Québec.
Oui. Est-ce qu'on dit on descend ou on monte? On descend?
On suit le courant.
Oui,
donc
c'est vrai.
On descend.
OK.
Alors... oui, donc, ben, c'est pas vraiment un voyage de route, mais je vais prendre l'autobus et
okay.
Aller voir mes neveux et nièces. Non, c'est trop long. Et vous, ma chère?
Ben, moi, je vais aller faire un petit tour, une sorte de road trip, si on veut, du côté de Pointe-des-Cascades. Je ne sais pas si vous connaissez endroit-là, le Théâtre des Cascades qui présente à partir de... Ben, peut-être que c'est commencé, mais je sais que la première officielle, c'est demain, la pièce Zaza d'abord, avec entre autres José Deschênes. J'aurai l'occasion de vous lire, j'imagine, des textes au sujet de cette pièce. On sait que le théâtre d'été est très populaire et que de plus en plus, il y a du théâtre d'été et non du théâtre en été, non du théâtre d'été, parce qu'il y a plein de connotations qui nous viennent en tête. Mais en tout cas, on aura l'occasion de s'en parler.
Vous en parlez, bien sûr. Ouais.
Oui, je vous souhaite du bon temps à Québec.
Vous aussi.
Merci. L'émission n'est pas finie.
Non, c'est vrai.
Mariage de passion avec les abeilles, une incursion dans le monde laborieux de l'apiculture à Saint-Benoît-Mirabel. Nettoyeuse, ramasseuse, cirieuse, ventileuse, gardienne, éclaireuse, butineuse, une rude travailleuse que cette abeille ouvrière a la courte vie de 35 à 40 jours qui produit le miel, et une pollinisatrice sacrément importante. N'est-ce pas Einstein qui disait que si l'abeille disparaissait, l'humanité en a pour 4 ans à vivre? Pour découvrir le monde de l'abeillage, cap vers Saint-Benoît-Mirabel. C'est une collaboration d'Hélène Clément. Non loin de l'autoroute 640, de jolis chemins de campagne bordés de maisons traditionnelles québécoises aux toits courbés mènent à de verts champs tapissés de fleurs sauvages. C'est là, à Saint-Benoît, entre Saint-Joseph-du-Lac et Saint-Placide, que la famille Macle a établi en 1976 l'entreprise apicole Intermiel. Peut-être connaissez-vous déjà son miel vendu dans plusieurs épiceries du Québec dans des pots aux jolies étiquettes sur lesquelles sont inscrits la sorte de miel, sa provenance et le nombre de ruches. Et sur les couvercles imprimés de fleurs, la certification 100% Québec validée par le Bureau de normalisation du Québec. À moins d'avoir entendu parler d'Intermiel à la cabane à sucre au pied de cochon, juste à côté. Lorsque certains des plats du chef Martin Picard sont accompagnés d'un alvéole de miel, il y a de fortes chances qu'ils proviennent de ce voisin. Originaire de Picardie en France et établi au Québec depuis 1969, Viviane et Christian Macle, deux enseignants de formation, cultivent leur amour pour les abeilles depuis bientôt 50 ans. ici dans les Basses-Laurentides, mais aussi dans Lanaudière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Outaouais, à Pontiac. Mon père se passionne pour l'apiculture depuis son enfance, alors qu'il accompagnait mon arrière-grand-père dans ses ruchers en France, explique Éléonore, responsable de la commercialisation et de l'agrotourisme. Ma mère est une pédagogue dans l'âme et le cœur. C'est elle qui a développé, il y a 27 ans, le volet éducatif. En 1991, 200 élèves visitaient notre entreprise par année. Aujourd'hui, nous en accueillons plus de 15 000, sans compter les 100 000 autres visiteurs qui leur rendent visite chaque année. Remportant pour la deuxième fois la mention spéciale de l'agrotourisme décernée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Intermiel peut aussi se targuer d'avoir été choisie meilleure entreprise apicole au monde en 2017 par World's Greatest, une émission américaine qui sélectionne les meilleures entreprises au monde dans leur secteur d'activité. Nous comptabilisons au Québec entre 9 500 et 10 000 ruches, précise Éléonore. Sur ce total, nous apportons environ 6 900 ruches pendant 3 semaines au lac Saint-Jean pour la pollinisation du bleuet. Nous produisons 450 000 kilos de miel par année et employons en période estivale 75 personnes. Les champs occupés par les ruches d'Intermiel présentent une jolie diversité florale qui permet à leurs 425 millions d'abeilles de fabriquer une large palette de produits. Pommes au printemps, framboises, trèfles, verges d'or et bleuets en été, fleurs sauvages et sarrasins en automne. Les macles fabriquent aussi du miel de sapin et ce véritable laboratoire des produits de la ruche, miel, propolis, pollen, cire, gelée royale et leurs dérivés, dont l'hydromel, propose du 24 juin au 15 octobre 3 visites guidées par jour, 7 jours sur 7. La visite commence au champ par l'ouverture d'une ruche, Calmos. On enfile d'abord la combinaison blanche, dite cosmonaute, le chapeau avec filet et les gants blancs. On dit que le blanc apaise les abeilles et leur procure un sentiment de sécurité. L'amour pour les abeilles se lit dans les yeux de Manon, apicultrice et animatrice chez Intermiel. Elle leur parle avec douceur, les bichonne, les caresse de la main. Même, le monde des abeilles, c'est une société de femmes laborieuses, explique-t-elle. Il y a la reine, les ouvrières, entre 50 000 et 60 000 par ruche, et les faux bourdons. Le rôle des abeilles mâles est limité. Ils ne fabriquent pas de miel et n'assurent pas non plus la protection de la ruche puisqu'ils ne piquent pas. Ils sont dans la ruche uniquement pour s'accoupler avec la reine. Et comme cette dernière ne s'accouple qu'une seule fois, plusieurs faux bourdons ne pourront même pas remplir cette unique mission. La reine est la seule femelle féconde de la colonie. Au printemps, elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Elle ne sort pratiquement jamais de la ruche. Les ouvrières lui apportent la nourriture nécessaire et assurent le nettoyage de ses excréments. Elle est la seule à se nourrir exclusivement de gelée royale depuis le stade larvaire, précise Manon. Est-ce la raison pour laquelle elle vit 5 ans et non 40 jours? Pendant ce temps, pour assurer la survie de la colonie, les ouvrières fabriquent le miel, ventilent la ruche, nettoient, ramassent, fabriquent la cire, butinent et veillent sur tous les autres types d'abeilles. Ah oui, et dansent aussi pour communiquer entre elles. La visite d'Intermiel comprend l'interprétation de la ruche, la visite de l'hydromêlerie, de la distillerie, des installations de fabrication du sirop d'érable et se termine à la boutique. Chez Intermiel, les abeilles butinent aussi pour le camp. Pardon, je plie la page de mon devoir. Je reprends. Chez Intermiel, les abeilles butinent aussi pour le camp depuis près de 40 ans. En fait, depuis 1985, alors que l'on découvre qu'Éléonore, la fille de Viviane et Christian Macle, alors âgée de 5 ans, est atteinte d'un cancer hépatoblastome, aussi appelé tumeur abdominale de l'enfant, une rare tumeur maligne du foie. Un dur coup pour la famille qui vient à peine de s'installer. Après une opération chirurgicale importante et plusieurs traitements de chimiothérapie, Éléonore sourit aujourd'hui à la vie. Cette collaboration avec le camp était un choix tout à fait naturel. Intermiel s'engage donc à verser aux enfants atteints de cancer l'argent récolté pour la vente du miel Ourson le camp. Toujours au profit de le camp, une séance de yoga de 90 minutes à la ferme comprenant une initiation à l'apithérapie et un pot de miel Ourson le camp se tiendra chez Intermiel samedi demain 16 juin à 9h30. Intermiel.com. Voilà, c'est tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du 15 juin 2018. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. Un grand merci aussi à Mathieu Tessier, à l'animation presque, parce que vous parlez vous aussi, à la mise en onde et au choix musical. Et on se quitte, c'est rare qu'on se quitte avec une chanson, mais là, il y aura hommage à Jacques Brel, c'est dans le cadre des Franco. Et on a décidé de faire un petit clin d'œil à cet hommage, un clin d'œil instrumental, n'est-ce pas, Mathieu?
Tout à fait.
Alors, donc, on va se quitter avec une pièce que vous connaissez bien, Jacques Brel, un grand classique, cette fois interprété au piano. Ici Hélène Denis, bon week-end, profitez-en bien. On se retrouve lundi.